divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Martin Handler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien, professeur émérite à l'université de Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay. Vous êtes président de l'association Initiative pour la science en Europe et vous avez créé l'association de promotion des mathématiques, Animat, que vous avez présidée pendant 19 ans. Alors, je suis heureuse de vous recevoir à l'antenne de l'Union rationaliste pour faire le point ensemble sur la situation de l'enseignement des mathématiques en France, du collège à l'université, après ce raz-de-marée qu'ont constitué, selon nous, les réformes Vidal-Blanquer et que nous avons beaucoup combattu à l'antenne de l'Union rationaliste. Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui a, selon vous, Martin Handler, changé avec ces réformes en ce qui concerne les mathématiques, les critiques qu'elles ont suscitées, notamment en ce qui concerne l'abandon des filières et la forte régression du nombre de filles choisissant la spécialité mathématique, vous semblent-elles des critiques légitimes ?
Alors, dans l'ensemble, oui, mais je vais préciser une chose d'emblée, c'est que personnellement, je suis plutôt favorable à l'abandon des filières, donc c'est pas ce point-là qui me paraît problématique dans la réforme Blanquer. Mmh. Sur les mathématiques, il s'agit vraiment de la réforme du lycée général faite par Blanquer et Frédéric Vidal n'y est pour rien dans cette affaire. On en parlera peut-être si on parle tout à l'heure de l'algorithme de Parcoursup, parce que ça, c'est une question différente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on avait des filières et dans les filières, on parle uniquement du lycée général. Mmh. Les milieux intellectuels se désintéressent complètement du lycée technologique et professionnel, et c'est un problème.
C'est un vrai problème qu'à l'Union rationaliste, nous ne méconnaissons pas.
Mais bon, donc ici, on parle du lycée général. Donc on avait trois filières, S, ES et L. Et la filière S, c'était la filière d'élite, en gros, qui rassemblait d'une part la majorité des bons élèves, et d'autre part, très majoritairement, les élèves des catégories socioprofessionnelles supérieures. Et puis il y avait les filières ES, et puis de fait, tout en bas de l'échelle, il y avait la filière littéraire. Donc, cette situation, de mon point de vue, était extrêmement problématique et essayer de changer quelque chose était plutôt une bonne chose. Alors maintenant, ce qu'a fait Blanquer avec la réforme du baccalauréat, c'est d'essayer de mettre en place un système qui est quand même le système qui domine dans la plupart des pays du monde, dans lesquels les élèves choisissent des spécialités parmi un choix ouvert de spécialités, dans lesquelles il n'y a pas de filière. Mais c'est la manière dont ça a été mis en place qui, à mon avis, pose de très, très graves problèmes et qui, en effet, a particulièrement affecté l'enseignement des sciences et en particulier des mathématiques.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? C'est-à-dire, alors, en quoi les maths ont pâti et en quoi, par exemple, les jeunes filles, quelque chose du côté du genre s'est joué autour de cette réforme ?
Alors, si on part de la question des filles, c'est pas un problème nouveau. Il y a une inégalité très très marquée dans les orientations des filles et des garçons. On était plutôt en train de faire des progrès. Limité, mais quand même des progrès au niveau du lycée, donc de l'accès des filles à la filière S. On était remonté à plus de 40% de filles dans la filière S.
Ce
c'était
qui est
en
quand
progrès.
Même,
c'était mieux.
Beaucoup mieux.
Dans la filière S, spécialité mathématique, c'était significativement moins. Donc, on n'était pas du tout sorti du guet. Et si on regarde les classes préparatoires scientifiques en maths sup, maths spé, là, on descend à 25% ou quoi. Donc, la situation n'était pas du tout bonne. On était plutôt très très légèrement sur la voie du progrès.
Bien
et
sûr.
En effet, la réforme du bac
a mis un coup d'arrêt à cette
chose-là. Cela dit, pourquoi est-ce que je pense que l'implémentation est très mauvaise ? Parce qu'il y a eu un axiome de départ qui a été de dire les spécialités scientifiques vont être entièrement dans les spécialités, dans l'optionnel, et la partie obligatoire, ça va dominer le tronc commun, ça va être dominé par les disciplines littéraires, c'est-à-dire histoire ou philosophie, enfin histoire, géographie, français, philosophie, langue vivante et éducation physique. Les disciplines scientifiques étaient reléguées entièrement ou presque entièrement à l'optionnel, sauf un cours assez intéressant par ailleurs de culture scientifique générale, mm-hmm. qui était pas mal, mais qui comptait très très peu. À partir du moment où on avait une domination de l'obligatoire qui était français, philosophie, histoire, géographie, langue vivante, et que les sciences dures, donc maths, physique, biologie, étaient du côté de l'optionnel, on était dans une situation très très fortement déséquilibrée. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? Et ça demande une vraie réflexion, c'est qu'on voit qu'il est plus ou moins facile de faire le même cours de français ou le même cours d'histoire pour tous les élèves, et qu'il est extrêmement compliqué de faire le même cours de mathématiques ou le même cours de physique, chimie ou de biologie pour tous les élèves. Et donc, ils ont aussi fait une confusion entre matière obligatoire et matière de tronc commun. Je pense que si on avait distingué matière obligatoire et matière de tronc commun, on n'en serait pas là. Donc, avec ces deux axiomes, on est arrivé à une situation qui est extrêmement déséquilibrée. Ensuite, il y a eu des erreurs un peu de deuxième plan. S'ils ont dit, on va faire une seule unité de mathématiques en première pour les gens qui prennent mathématiques, donc qui embrassaient du coup une très très grosse majorité des élèves. Et ça, c'était probablement quelque chose d'illusoire, parce que faire le même cours de mathématiques à 70% des élèves, dont certains vont poursuivre en mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, donc vont avoir besoin de pas mal de mathématiques, et d'autres vont poursuivre dans des directions dans lesquelles le rôle des mathématiques est beaucoup moins important, c'était probablement aussi une erreur. Donc il y a eu plein d'erreurs d'implémentation à partir d'un axiome qui est vraiment très, très, à mon avis, très choquant, parce que pour ma part, je mets sur le même plan la culture scientifique et ce qu'on appelle la culture en général. Je pense que les deux sont les deux piliers de la formation d'un citoyen, et que donc une formation doit être relativement équilibrée entre les deux.
Alors, comment en est-il sorti? Parce qu'il y a eu des critiques massives et on a dû revenir sur...
Alors, on a mis un peu un sparadrap qui, à mon avis, n'est pas satisfaisant du tout. C'était, on a dit, bon, on va remettre des mathématiques dans le tronc commun, et puis pour l'instant, les gens qui font des mathématiques spécialisées ne font pas les mathématiques du tronc commun. Je pense que c'est souhaitable, évidemment, qu'il y ait des mathématiques pour tout le monde. Et je vais donner un exemple dans une minute, la raison pour laquelle c'est souhaitable. Mais je pense que cette manière de l'organiser n'est pas la bonne. Je pense qu'il faut vraiment qu'on repense cet équilibre entre la présence des sciences et des lettres. En gros, dans mon idée, pour les lycéens, il devrait y avoir, si on a 30 heures d'enseignement par semaine, c'est à peu près l'ordre d'idée, il devrait y avoir 10 heures obligatoires de lettres, 10 heures obligatoires de sciences, et puis 10 heures optionnelles quelque part au milieu.
D'accord.
Enfin bon, c'est une espèce de schéma général.
Ce qui a été fait concrètement?
Alors, ce qui a été fait concrètement, c'est pas du tout. On a juste rajouté une heure et demie de mathématiques, ce qui est vraiment très très peu. Dans ce que moi j'avais pensé dans les propositions que j'avais faites avec un groupe de Terra Nova sur la réforme du bac, c'est de dire il faut aussi éviter l'émiettement des domaines pour les élèves. En ce moment, si on prend quelqu'un qui était dans l'ancienne filière S, il avait 10 matières à mener de front, français, de langue vivante, histoire, géographie, mathématiques, physique, sciences de la vie, sciences de la terre, éducation physique et sportive. Ça fait exploser la tête de la plupart des élèves, et aussi ça fixe une obligation aux élèves de faire des choses qui les intéressent pas forcément. Je pensais qu'il fallait sortir de là. Là, on crée un enseignement de mathématiques qui fait une heure et demie par semaine. Mmh. Donc, un tout petit bout de mathématiques parce que les mathématiciens ont râlé et que, ça va pas du point de vue, ni du point de vue pédagogique, ni du point de vue de l'équilibre général. Alors, une des raisons pour laquelle c'est important, c'est que les élèves qui aujourd'hui sont plutôt orientés vers les filières littéraires, en majorité, ce sont les futurs professeurs d'école de demain. Les professeurs d'école, ils enseignent beaucoup de mathématiques,
bien
ils enseignent encore plus de français, mais ils enseignent beaucoup de mathématiques, ils enseignent 5 heures de mathématiques par semaine. La plupart des professeurs d'école aujourd'hui sont des gens qui ont abandonné les mathématiques en seconde, mais ça c'était déjà le cas avant, et qui ont, par rapport aux mathématiques, une attitude de crainte, ou une attitude problématique, ils sont très mal formés, et donc ça va pas, et la seule manière d'y remédier, c'est de dire tout bachelier doit faire des mathématiques. Pas forcément, et certainement pas les mêmes mathématiques, mais doit faire des mathématiques.
Je comprends ce point de vue et je le partage. Alors, dans la lignée de ce que vous dites là, que pourrait-on faire pour augmenter le goût des jeunes gens pour les sciences en France et en Europe, et pour inciter les jeunes filles à faire aussi ou davantage de sciences et de mathématiques?
Alors, c'est un vaste programme,
ça fait des vastes chantiers,
ça fait des années qu'un certain nombre de gens y réfléchissent. Bon, il y a clairement pas de solution miracle. Le problème, d'ailleurs, de la désappétence des élèves pour les filières scientifiques est un problème mondial, pas du tout un problème spécifiquement français, même s'il a des dimensions et des particularités chez nous. Bon, moi, je pense que nous, scientifiques, nous devons réfléchir fortement à améliorer la manière dont nous enseignons nos disciplines, de la maternelle jusqu'à l'université. Pour beaucoup d'élèves, ça paraît être une contrainte un petit peu désincarnée et à laquelle ils ont du mal à adhérer. C'est pas un enseignement qui fait forcément sens pour eux. C'est déconnecté de leurs préoccupations. Donc, je pense qu'on doit beaucoup travailler là-dessus. Je pense aussi qu'on doit développer l'accès à la culture scientifique pour les jeunes scolarisés, d'ailleurs pour la société dans son ensemble. Je crois qu'il faut qu'on comprenne, que tout le monde comprenne, que par rapport à la culture scientifique ou à la culture littéraire ou des humanités et des sciences sociales, il y a une inégalité structurelle. Si vous êtes une jeune fille, un jeune homme, vous avez accès quotidiennement à la culture générale. Il y a des bibliothèques, il y a des livres, il y a de l'information, il y a des journaux dans lesquels on peut se former, s'auto-former. Et on peut le faire. Évidemment que l'enseignement est très important, mais on peut le faire largement aussi tout seul. C'est pas du tout le cas de la même manière pour la culture scientifique, et donc on a besoin de dispositifs spécifiques. Bon, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ce que nous faisons dans les associations du type de celle d'Animat, c'est d'essayer de créer des occasions pour les jeunes d'avoir accès à des activités mathématiques, pas seulement écouter des choses, mais faire des choses qui soient dans un cadre facultatif, c'est-à-dire sur la base d'une adhésion volontaire et pas simplement d'une contrainte. Je pense que le développement de ce type d'activité serait très intéressant. J'aimerais bien que dans chaque établissement scolaire en France, il y ait un club de théâtre, un ciné-club, un club de mathématiques, un club d'astronomie, un club de physique, et que une partie du temps extrascolaire puisse être utilisée pas pour ce type d'activité sur la base du volontariat. Et faire aussi une association sportive, évidemment.
Faire des mathématiques,
être actif.
Très bien. Alors, ma dernière question porte sur les algorithmes qui sont à l'œuvre dans Parcoursup, parce que je crois que vous avez travaillé sur cette question. Que peut-on en conclure sur cette plateforme nationale d'admission en première année des formations de l'enseignement supérieur, sur laquelle, là encore, nous sommes très critiques à l'Union rationaliste et dont de nombreux syndicats d'enseignants demandent l'abrogation?
Alors, je pense qu'il faut distinguer la question de Parcoursup des mécanismes généraux d'orientation. La plateforme Parcoursup, à proprement parler, c'est un algorithme qui cherche à trouver entre les demandes des élèves et les propositions des établissements une solution qui est optimale. Ça repose sur un algorithme qui a 60 ans, qui a été créé par deux mathématiciens économistes américains, Gale et Shapley, qui est considéré à peu près universellement comme étant la meilleure le meilleur algorithme. Il faut se rendre compte que si vous vous demandez comment vous avez une grande maison, vous avez des amis et vous essayez d'optimiser la répartition des amis dans des chambres, en fonction de leur goût, ça va être compliqué. Mais oui. C'est 5 amis ou 5 couples, 5 chambres, vous y arrivez. Vous avez 800 000 élèves, 800 000 offres d'établissements, c'est pas jouable. Donc on a besoin d'un mécanisme d'informatique. Et ça, c'est l'algorithme de Parcoursup, et je pense que c'est un bon algorithme. Alors maintenant, la question, c'est la question de la manière dont se passe l'orientation, c'est la question de la manière du fait que il y a un déséquilibre extrêmement profond entre les demandes des élèves et ce qui est proposé comme filière, soit du côté, disons, élitiste, il y a peut-être insuffisamment de place, c'est très hiérarchisé, plus hiérarchisé en France que dans beaucoup d'autres pays. Et au contraire, il y a insuffisamment de place actuellement qui correspondent aux demandes des bacheliers technologiques et professionnels dans les BTS et les BUT, donc les bacheleurs universitaires de technologie. Donc il y a un déséquilibre intrinsèque avec un système extrêmement élitiste et je pense que là, il y a un vrai problème. Mais c'est pas l'algorithme de Parcoursup qui est en question.
D'accord. C'est sur cette problématique que nous allons clore cette émission. Nous devrons y revenir. Martin Handler, je vous remercie.
Je vous remercie de m'avoir accueilli.
Je renvoie aux différentes émissions que nous avons enregistrées à l'antenne de l'Union Rationaliste sur la réforme du collège, du lycée, du bac, sur l'enseignement de l'histoire. Je pense aux émissions avec Laurence Decocq, Philippe Champy, Bérangère Huron notamment. Le prochain numéro de Raison présente, coordonné par Marc-André, portera sur les violences patriarcales et sera particulièrement intéressant. Je remercie à France Culture Luc-Jean Reynaud, Ruben Carmazine et Claire Poinsignon, et je vous dis au mois prochain.
Vos verres de lunettes, vous pensez qu'ils ne font que corriger votre vue. Pour nous, chez Zeiss, ils font bien plus que ça. En tant qu'entreprise détenue par une fondation, Zeiss investit largement dans la recherche scientifique. Choisir des verres Zeiss, c'est contribuer au traitement du cancer du sein. C'est aussi participer à l'essor des biotechnologies ou encore à celui de l'intelligence artificielle pour la santé. Alors c'est sûr, vos verres de lunettes vous servent à voir. Mais vous ne les choisirez plus de la même façon. Zeiss. Trouvez votre opticien sur Zeiss.fr. Ces produits sont des dispositifs médicaux.